Bonjour, je m'assure que toute la technique soit en place. C'est pas sûr, mais on va voir. On va voir comment ça se passe. Ah oui, donc il veut me parler. Il y a un code PIN là pour le désactiver ou pas? Un, deux, trois, quatre. Bah dis donc, ça c'est du code, hein. Super. Voilà. Bonjour à chacun et à chacune. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager des réflexions, des méditations en ce dimanche matin pour la prédication. Merci à toi, Francky, pour l'introduction, pour ce temps où nous plaçons devant le Seigneur. Ce matin, pour la réflexion de la prédication, je vous propose de nous pencher sur un personnage un peu oublié, ou en tout cas dont nous parlons peu dans nos milieux protestants évangéliques. Je vous propose de nous intéresser à Marie, la mère de Jésus. Alors, on sort à peine du temps de l'Avent, on vient de fêter Noël. Et le temps de l'Avent et Noël, c'est quand même un moment où un des personnages principaux, voire même indispensable, c'est Marie. Mais il faut reconnaître qu'on a quand même du mal, notamment en tant que protestant, en fait, à savoir en fait quelle est sa place. Est-ce que Marie a une place dans le plan du salut? Et si oui, lequel? Autrement dit, est-ce qu'on peut vraiment raconter l'histoire biblique du salut sans faire mention de Marie? Alors bien sûr, je suis conscient que c'est un sujet pas évident, un sujet chaud, qui est hautement discuté entre les chrétiens, notamment les catholiques et les protestants. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai été, en tout cas à titre personnel, pour la première fois, j'ai été, on va dire, confronté, dans le cadre d'un débat, en fait, dans une formation que j'ai suivie qui s'appelle Point chaud, justement. Et donc, cette année-là, on a eu l'occasion, donc l'idée de cette formation-là, qui malheureusement n'existe plus, c'était de donner des clés pour interpréter la Bible. Qu'est-ce qui fait que telle personne va la lire de telle manière, alors que telle autre va... Voilà, quelles sont les clés d'interprétation pour pouvoir comprendre la Bible, en fonction de nos traditions et de nos dénominations, en tant que chrétiens, mais aussi pour pouvoir dialoguer de manière respectueuse entre chrétiens. Et c'est ce qu'on a eu l'occasion de vivre dans cette formation-là, des chrétiens de différentes dénominations, catholiques, protestants réformés, évangéliques, anabaptistes, qui dialoguent sur différents sujets, comme le baptême, comme la Sainte Cène, l'évangélisation, l'Église, ou encore la place de Marie. Et je dois dire que je me suis pas mal inspiré, en fait, de ce que je vais vous... par rapport à cet échange qui a eu lieu il y a 2-3 ans, je me suis pas mal inspiré de ça pour vous parler ce matin, et notamment de la présentation d'une théologienne qui s'appelle Anne-Cathy Graber, une théologienne protestante française, lors de ce débat-là notamment. Donc si vous voulez en savoir plus, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Marie. Voilà. Alors qui est Marie? Quelle est sa place dans le récit biblique? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se pencher sur ce qu'en disent les Écritures. Et de voir trois facettes. Il y en aurait peut-être d'autres, mais je vous propose trois facettes qui nous permettent de mieux comprendre cette femme que l'on retrouve tout au long des Évangiles. C'est la première chose qu'on peut dire, c'est que s'il y a une personne qui traverse les Évangiles en dehors de Jésus, c'est Marie. Elle est là du tout début jusqu'à la fin. Certains même disent quand vous lisez les Actes des apôtres, elle est avec les apôtres en train d'attendre la venue du Saint-Esprit à Jérusalem. Donc elle est même dans les actes des apôtres, elle dépasse les évangiles. Les trois aspects que j'aimerais aborder avec vous, c'est de voir comment est-ce que Marie est fille d'Israël, comment est-ce que Marie, ou qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit vierge et mère, et ensuite Marie, celle qui a cru comme un exemple de foi. Tout d'abord, Marie, fille d'Israël. Alors, je ne sais pas si, quand vous lisez la Bible, vous êtes toujours de la facilité à comprendre ce que vous lisez. C'est parfois difficile. C'est parfois opaque, ou un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, je me permets le mot, mais barbant. En tout cas, ça peut être parfois difficile et peut-être ennuyeux. Parfois les deux. Et il se trouve qu'il y a un type de texte biblique qui sont peut-être, probablement, qui associe les deux le plus. Hein. C'est ce qu'on appelle les généalogies. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des généalogies. C'est vraiment le truc, je vous propose ce matin d'en lire une petite partie. C'est des listes de noms imprononçables, puisqu'ils sont, qui s'enchaînent presque à l'infini, on a l'impression que ça ne s'arrête plus, quoi. Et il y a toujours un verbe qui est intercalé entre deux noms. Vous savez ce que c'est le verbe ? Fils de, ou alors c'est engendra. Donc c'est, on va le voir, mais c'est engendra. Donc un tel engendra un tel, un tel engendra un tel, un tel engendra un tel. Bon, c'est pas hyper intéressant, pas hyper reluisant, mais ce qu'on peut dire en fait, et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'en fait, Matthieu par exemple, l'évangéliste Matthieu, lui, il commence son évangile par une généalogie. On sait combien le début d'un livre, c'est assez crucial, quoi. Ça pose les bases, ça permet de bien comprendre les choses et tout ça. Ça permet aussi d'accrocher le lecteur. Bon, je ne sais pas si c'était l'objectif de Matthieu, mais en tout cas, du coup, c'est comme ça. Matthieu commence par une généalogie. Moi, je dis, il fallait oser. Et donc là, il nous dit, c'est la généalogie de Jésus. Alors, je vous l'affiche, vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Ce que Matthieu veut nous dire, c'est que Jésus est fils de David et fils d'Abraham. Verset 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Phares et Zara, Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Je m'arrête là, voilà, vous avez compris le principe. Et ça va jusqu'au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Au-delà de cet aspect peut-être un peu rébarbatif, je crois que dans les généalogies, ou dans cette généalogie-là, il y a une généalogie, si vous pouvez me permettre le jeu de mots. Voilà. Et j'aimerais en relever deux aspects qui nous parlent justement de de la place de Marie notamment. Je reprends le verset 16. Je l'ai un peu mis en avant pour que ça se voit un petit peu mieux. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé le Christ. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe. Il y a quelque chose qui ne colle pas là en fait. Hein. Le texte ne dit pas Jacob engendra Joseph, Joseph engendra Jésus. Mais il nous dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Autrement dit, il y a une rupture ici. Quand on lit le texte, en fait, Joseph, il est pour rien dans la conception de Jésus. C'est bien Marie qui porte la responsabilité de l'engendrement de Jésus dans ce texte. L'aboutissement de cette généalogie, on est bien d'accord, c'est Jésus-Christ. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Marie, elle est pleinement inscrite dans ce peuple et dans cette lignée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? C'est cette longue lignée, ce que Matthieu veut nous dire, c'est que cette longue lignée, c'est des personnes qui, à la fois, précèdent Jésus, mais qui aussi l'attendent. Ils attendent le Messie. Et en cela, Marie exprime l'espérance du salut d'Israël. Et en fait, par sa place toute particulière, elle exprime aussi la réalisation des promesses. En fait, c'est un peu comme si elle était le point de jonction, le point de rencontre entre l'Ancien Testament, l'attente, l'espérance et tout ça, et entre la réalisation des promesses, le Nouveau Testament. Elle est un peu comme une sorte de trait d'union entre cette attente qui est exprimée, et que l'on reverra notamment plus tard, et cette réalisation des promesses. Elle a une place qui est cruciale, en fait. Il y a autre chose qui frappe dans cette généalogie, c'est que Marie, c'est une femme parmi de très nombreux hommes, mais qu'il y a d'autres femmes avec elle dans toute cette liste-là. Alors, je les ai surlignées pour pas que vous ayez besoin de les chercher. Je ne sais pas si bon, ils sont en gras, mais je ne sais pas si on les voit. On a Tamar. Tamar, c'est une... alors, je n'ai plus exactement... Je ne sais plus si c'est la fille ou si c'est la petite fille. Bon, bref. En tout cas, en fait, c'est une femme qui, dans l'Ancien Testament, en fait, s'est rendue coupable d'inceste avec son père en se faisant passer pour une prostituée. De son beau-père, pardon. C'était son beau-père. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc, une histoire un peu surprenante qui nous est relatée dans Genèse 38. On a Rahab aussi. Rahab, c'est une prostituée, elle aussi. Enfin, en tout cas, elle de métier, qui est étrangère. Elle était à Jéricho. Et elle a permis au peuple d'Israël de rentrer dans Jéricho et de conquérir Jéricho. Étrangère, prostituée, là aussi un CV qui n'est pas hyper reluisant. On a Ruth, une étrangère, là aussi, non juive, voilà, dont on pourrait aussi parler, discuter. Elle a séduit Boaz, on va dire, sur le plan de la tradition juive, d'une manière assez peu orthodoxe. On a la femme du riz. La femme du riz, son nom de famille, son prénom n'est pas mentionné. Les traductions disent soit Bathsheba ou Bethsabé. C'est un peu l'incarnation de la femme fatale. David tombe amoureux éperdument d'elle et du coup, il va faire tuer son mari à la guerre et il la prend pour femme. C'est des femmes qui sont particulières, qui ont un pédigré particulier. Et puis on a Marie. Alors, il y a un théologien qui disait que parmi cette liste de femmes, il manquait plus qu'une femme adolescente, une mère-fille, pour avoir le panel. En fait, le point commun entre toutes ces femmes, c'est qu'elles ont toutes engendré un descendant, un ancêtre du Messie. De manière étrange, de manière peut-être difficile à entendre, c'est pas, comment dire, habituel. Mais je crois que ça dit quelque chose justement d'important. Ça nous dit que elles sont le signe de la grâce de Dieu. Ces hommes et ces femmes sont le signe de la grâce de Dieu. C'est une grâce qui ne choisit pas les chemins habituels, tout tracés, où ça file tout droit, mais que la grâce de Dieu, elle se ferait un passage dans l'histoire humaine qui est parfois très compliquée, très tortueuse et surtout très imparfaite. Notre histoire. Marie, elle fait partie de cette lignée de femmes étrangères, incestueuses, coupables d'adultère. Et donc, par conséquent, Jésus aussi fait partie de cette lignée-là. Cette lignée qui, comme on pourrait dire parfois, les commentateurs sportifs disent, ça impressionne pas sur le papier, quoi. Mais ça témoigne du parcours de la grâce, de Dieu qui dit... Je vous choisis, pas parce que vous êtes les meilleurs, pas parce que vous avez la vie la plus parfaite, mais parce que je vous aime et parce que je veux rester fidèle à mes promesses. Je vous propose de voir le deuxième aspect. On va rester les quatre femmes, du coup, en l'occurrence. Marie, vierge et mère. Et là, je vous propose de prendre un texte biblique pour nous appuyer dessus. C'est dans Luc, à partir du verset 26 au verset 33. Luc, chapitre 1, verset 26 au verset 33. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Le texte qu'on vient de lire décrit ce que l'on appelle classiquement l'annonciation. C'est le moment où l'ange vient annoncer à Marie ce qui va se passer. Cet événement, il a marqué notre histoire, il a été repris de maintes et maintes fois dans la culture religieuse, dans la liturgie, mais aussi dans la culture, on va dire, de la société, dans l'histoire, dans l'art, dans la peinture. J'avais envie de mettre quelques tableaux, mais il y en avait tellement que je ne savais pas lesquels choisir. Dans la musique aussi. Peut-être que certains connaissent le morceau Ave Maria. En fait, en réalité, il y a plein de Ave Maria. Là, par exemple, c'est une compilation. En gros, il fut un temps, une époque où tous les compositeurs les plus célèbres, s'ils voulaient faire un peu leur gamme, en fait, ils composaient un Ave Maria, quoi, en gros. Donc là, en l'occurrence, on a Bach, Handel, Mozart, Schubert. Bref, c'était un peu le passage obligé. Si tu composes pas ton Ave Maria, t'es pas un vrai musicien, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ave Maria? Eh bien, ça veut dire « Je vous salue, Marie ». Un peu comme les Romains dans Astérix Obélix. Je ne sais pas si ça vous parle. Quand ils saluent César, ils disent « Ave César ». Voilà. Donc, en fait, quand on dit « Ave Maria », en fait, c'est une citation de ce passage que l'on a lu. « Je te salue, Marie ». C'est bien une citation biblique. Nos frères et sœurs catholiques disent la chose suivante, je ne sais pas si je l'ai mis, je crois pas que je l'ai mis, si voilà. Nos frères et sœurs catholiques disent « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Mais du coup, si c'est une citation de la Bible, qu'est-ce qui nous embête là-dedans, en tant que protestants? Alors, on pourrait mentionner beaucoup de choses. L'idée, c'est pas de rentrer dans un débat ici. On pourrait mentionner la deuxième partie de cette prière, que peut-être certains connaissent, mais que j'ai pas mentionnée, qui, à juste titre, nous pose problème en tant que protestants. Mais pour nous, ce matin, j'aimerais m'arrêter sur une petite expression à laquelle j'avais pas fait attention auparavant, mais... il me semble que c'est important de prendre, je vous dis, prendre quelques minutes pour essayer d'expliquer un peu de quoi il s'agit et l'enjeu du débat. Cette petite expression-là, c'est « pleine de grâce ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est ça que disent nos frères et sœurs catholiques. Alors pourquoi ça pose problème? En fait, il se trouve qu'il y a un autre endroit, notamment, un autre endroit dans le Nouveau Testament où il est dit « pleine de grâce ». Et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, où il nous est dit « Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et là, de qui est-ce qu'il est fait référence? De Jésus. Il est fait référence de la parole, Jésus la parole. Donc on se dit, ben, plein de grâce dans un cas, plein de grâce, ou pleine en fait, puisque c'est la parole, pleine de grâce... Il est où le problème? C'est la même chose. Ben à ce niveau-là, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité, il s'agit... on a besoin d'aller derrière, puisque la Bible n'a pas été écrite en français. Hein. En fait, on se rend compte que, quand on lit dans les textes, c'est deux mots différents. Deux mots différents. Il y en a un qui signifie plein, rempli, complet, parfait, à qui il ne manque rien. Et c'est la parole, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui est mentionné par ce plein, cette plénitude. Et il y en a un autre qui est lié au fait de rendre gracieux, d'accorder une grâce. Peut-être qu'on comprend mieux la nuance entre les deux. Il y en a un qui est la source de la grâce, c'est un peu comme si c'est de lui dont la grâce vient. Il en est rempli parce qu'il en est constitué en fait. Il en est façonné, il est modelé par ça, il est la plénitude, il est la perfection. Il est le sujet de la grâce. Et en fait, dans le cas de Marie, elle est pleine de grâce parce qu'elle reçoit la grâce. Elle n'est pas sujet de la grâce, elle est l'objet de la grâce. Elle en est bénéficiaire, mais elle n'en est pas la source. Elle ne la crée pas. Et en fait, ça peut vous paraître surprenant, mais en fait, ça, tout le monde est d'accord avec ça. C'est pour ça que même la traduction, la plupart des traductions, notamment la traduction de la Bible de Jérusalem, qui est une référence dans le monde catholique, ne traduit plus par « plein de grâce », mais traduit par « comblé de grâce ». Parce que Marie est l'objet de la grâce de Dieu. Voilà, si vous avez des discussions comme ça, vous pouvez sortir ça. Mais pour autant, ce qui m'intéresse ici, c'est ça nous montre qu'en fait, c'est vraiment la parole, c'est Dieu qui est la source de la grâce. Mais on voit ici qu'il y a un choix fort, une décision forte de la part de Dieu, en fait, de choisir Marie pour la combler de grâce. Alors, par rapport au sujet que je vous ai proposé tout à l'heure, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que nous dit la naissance virginale, en fait? Pourquoi naître d'une vierge? Pourquoi est-ce que c'était si important que la mère du Fils de Dieu soit vierge? Là aussi, beaucoup de choses à dire. On peut peut-être le résumer de la manière suivante. C'est une manière d'associer deux vérités très fondamentales. La première, c'est que le Fils de Dieu qui est né de Marie, il est pleinement Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire qu'une femme vierge tombe enceinte sans avoir connu d'homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le Fils de Dieu est pleinement Dieu. Mais le Fils de Dieu a pleinement pris la condition humaine dans tous ses aspects, embryon, fœtus, grandir, petit nourrisson, bébé, et ainsi de suite. Et cette condition-là, elle est pleinement accordée grâce à Marie, par l'intermédiaire de Marie. C'est elle qui permet ça, en fait. Jésus est pleinement Dieu, et grâce à Marie, Jésus est devenu pleinement homme. Et le rôle, du coup, de Marie, il est d'une importance capitale ici, puisque ça permet à Dieu de dire « J'ai épousé votre condition humaine, je suis devenu vraiment un homme dans tout ce que ça implique, dans le fait d'être dépendant, de devenir un tout petit bébé, de grandir progressivement. » Il n'est pas juste débarqué comme ça, devenu de nulle part, ce n'était pas juste une apparition, il a vécu une vie humaine à tout point comparable à la nôtre. Donc voilà, Marie est fille d'Israël, on l'a vu dans cette transmission de généalogie, elle est vierge et mère aussi, on voit l'implication que ça a en termes de qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est fait homme, donc pleinement Dieu et pleinement homme, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Et j'aimerais terminer avec cette troisième affirmation qui est probablement celle, en tout cas à titre personnel, qui nous concerne le plus, je pense. Marie comme un exemple, un incroyable exemple de foi. Marie est celle qui a cru. Et j'aimerais m'intéresser à comment est-ce que, face à l'annonce de l'ange, dont on a parlé tout à l'heure, comment est-ce que Marie a répondu? La première réponse à Marie, ça peut paraître un peu bizarre, mais la première réponse de Marie à l'ange, c'est une question. C'est quand même pas si fréquent que ça, ça peut arriver, mais c'est pas si fréquent que ça. Et quand Marie répond à l'ange, elle lui pose une question. Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme? Et c'est là où, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a une nuance qui est importante. Marie a besoin d'en savoir plus. Elle a besoin de comprendre le projet de Dieu. Elle a besoin de se l'approprier, de s'en emparer. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était objet de la grâce. On peut être objet de la grâce, mais on peut aussi soi-même participer pleinement, collaborer à ce projet que Dieu a pour nos vies. C'est Dieu qui donne la grâce, mais c'est à nous de faire ce pas, de l'accepter et de l'intégrer. Et ça peut vouloir dire aussi poser des questions. Parfois, on a un peu une représentation, ou en tout cas, on peut avoir une représentation de se dire que la foi, c'est pas se poser de questions. C'est juste, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Et on se dit, si tu te poses trop de questions, tu manques de foi. Arrête de te casser la tête, tu poses trop de questions. Mais je crois qu'ici, Marie, elle est un exemple qui nous permet de nous dire, on peut être dans l'acceptation, mais pas dans une forme de renoncement de sa propre volonté. Elle n'est pas en train de mettre de côté son raisonnement ou son jugement. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'entrer dans le plan de Dieu et de se l'approprier pour elle-même. Elle a besoin d'en savoir plus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle s'autorise à questionner l'ange. Enfin, je ne sais pas si Dieu il nous parlait, est-ce que la première chose qu'on ferait, c'est lui poser une question? Je ne suis pas sûr, en fait. On lui dirait oui, ok, je fais ce que tu veux. Marie, elle est dans cet acte volontaire de comprendre et de s'intégrer dans le plan de Dieu, notamment par cette question-là. Elle répond par une question, mais elle répond aussi par la foi. Et ça, c'est important parce qu'en fait, librement, elle a dit oui. Marie, ça n'a pas juste été, comme je l'ai dit, le réceptacle, une sorte de vase qui contient le Dieu, une sorte de mère porteuse, si on peut dire ça comme ça. Elle a été dans ce consentement, dans cette acceptation-là, et elle dit la chose suivante, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit, ou selon ta parole. » Marie ici, c'est vraiment un modèle de foi. Un modèle de confiance dans la parole qui est donnée. L'ange lui donne une parole et elle l'accepte de manière simple, de manière presque naturelle. Elle est un peu comme l'Abraham du Nouveau Testament. Abraham qui avait reçu la parole de Dieu et qui, même face aux conséquences et face à l'avenir, ne savait pas de quoi il allait en retourner, et bien il a suivi le chemin, ben Marie fait la même chose. Marie répond par un acte de foi. Et cet acte de foi-là, il est suivi d'une mise en mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu dans le texte, il nous est dit qu'elle part en hâte. Elle se dépêche et elle va voir sa cousine Élisabeth. Ça confirme aussi sa volonté propre d'être pleinement libre dans ce projet-là, d'accepter pleinement ce projet-là. Et là où la foi la pousse aussi à se mettre en action. Et enfin, la quatrième réponse de Marie, c'est qu'elle répond par la louange. Alors, on va pas rentrer dans ce... On pourrait faire toute une prédication sur le Magnificat, qui est ce chant que Marie va entonner pour célébrer la gloire de Dieu. Mais c'est un bel exemple aussi de la manière dont Marie répond à l'action de Dieu dans sa vie. Et ça reprend un certain nombre de thèmes qu'on a déjà vus. Ça nous dit par exemple qu'elle est fille d'Israël, puisqu'en fait elle reprend un cantique qui est présent dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le cantique d'Anne. Elle fait part aussi du renversement des valeurs. C'est ce que les Juifs attendaient quand ils attendaient la venue du Messie. Ben, ils savaient que quand le Messie viendrait, il y aurait un renversement des valeurs. Les riches seraient mis, enfin les forts seraient mis à bas, les faibles prendraient de la valeur. C'est ce que Jésus dit quand il dit que les faibles vont devenir forts et les forts devenir faibles. C'est ce qu'il dit. C'est cette transformation et ce renversement des valeurs. En fait, ici, Marie est comme une prédicatrice ou une prophétesse, en tout cas, parce qu'elle va donner des paroles de la part de Dieu au travers de ce chant-là. Et enfin, par rapport à cette foi-là, donc je l'ai dit, donc Marie est un modèle de foi par ses réponses. Elle répond en questionnant Dieu, en questionnant l'ange, Elle répond aussi par la foi, elle répond par l'action, par la mise en mouvement, et elle répond par la louange. Et je pense que ça peut être aussi, pour nous, une source d'inspiration aussi dans la manière dont nous vivons, à titre personnel, mais aussi à titre collectif, en église, en assemblée, comment nous vivons notre relation avec Dieu. Et j'aimerais terminer avec la dernière chose, c'est qu'en fait, et c'est peut-être ça ce qui, en tout cas moi, m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, la foi de Marie, je l'ai dit tout au début, elle a continué à cheminer après ce oui initial. On aurait pu se dire, ça y est, Noël est passé, Marie, elle a donné naissance, elle a, la nouvelle naissance est arrivée, la naissance de Jésus est arrivée, mais par sa vie et sa relation après avec Jésus, en fait, elle a cheminé. La relation avec Jésus a évolué dans le temps. Et on observe ce cheminement-là dans tous les évangiles, en observant cette relation grandissante. Et j'aimerais mentionner trois petits événements qui sont parlants, il pourrait y en avoir d'autres aussi encore. Marie, comme je l'ai dit, c'est celle qui probablement a le mieux connu Jésus. Elle l'a connu quand il était tout petit, tout bébé, elle l'a connu dans son ventre, elle l'a connu quand il a grandi. Et pourtant, Jésus a pu lui échapper aussi. Marie a dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand Jésus va dans le temple à 12 ans. À 12 ans, on est quand même encore assez jeune. Et Jésus abandonne ses parents pour aller au temple, pour discuter avec des maîtres de la loi. Et en fait, Marie-Joseph ne sait pas du tout où est-ce que Jésus est parti. Et là, dans la relation qu'elle a avec son fils, Marie devient le témoin que la foi peut être mise à l'épreuve de l'incompréhension. Mais pourquoi tu nous as fait ça ? On voit ici que ce n'est pas une foi linéaire où, en fait, à partir de la naissance, tout d'un coup, ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme si la foi grandissait en permanence. Il y a des hauts, il y a des bas, la foi évolue. Elle a aussi été celle qui a entendu son fils dire « Qui est ma mère ?» Jésus a dit, vous pouvez trouver ça dans Matthieu 12 ou Marc 5, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Elle est là, ta mère, c'est Marie. Et Jésus répond « Ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père Céleste. » Vous imaginez ce que ça fait à une mère d'entendre ça ? La foi de Marie, la foi en son fils, il a consenti en un brisement et en un élargissement des liens du sang. Parce que Marie, petit à petit, elle a compris et elle a découvert que son rôle de mère, il était transformé, remplacé par un rôle de disciple à la suite de son fils, à la suite de Jésus. Et enfin, elle a été celle qui a dit « Ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus de vin, et faites tout ce qu'il vous dira. » Donc, « Ils n'ont plus de vin », elle a dit ça à Jésus, lors des noces de Cana. « Et faites tout ce qu'il vous dira », elle l'a dit aux serviteurs. Ce témoignage, il est intéressant dans le fait que Marie, elle a cette foi qui est à l'écoute des besoins des gens autour d'elle. Elle n'est pas dans une relation fusionnelle avec son fils qui l'enferme et qui l'empêche de voir ce qu'il y a autour d'elle. Elle est dans la liberté aussi de s'ouvrir, de voir les besoins autour d'elle et d'aller interpeller son fils. Et cette fois-là, elle déclenche ce premier miracle. Par ce signe-là, Marie n'est plus simplement la mère de Jésus, elle est aussi cette femme fille d'Israël qui croit les promesses de l'Ancien Testament et qui a compris que c'est son fils qui est le Messie pleinement promis et qui va pleinement les accomplir. Et donc ce qui est intéressant vraiment dans tout ce parcours-là, c'est de voir comment la foi a évolué. Il y a un oui initial, il y a une acceptation initiale, mais après elle évolue. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point-là pour terminer ? C'est que je crois que c'est particulièrement vrai pour nous, dans le monde protestant évangélique. On a parfois la tendance à avoir fait de la conversion un peu une sorte d'absolu. Ça y est, je suis baptisé, j'ai dit oui, maintenant, hop, direct, tout droit, il n'y a plus de haut, plus de bas, c'est une sorte de... j'ai obtenu le salut et maintenant je peux aller directement au ciel et ainsi de suite, quoi. Et on oublie souvent d'ajouter, en vue de quoi est-ce qu'on est sauvé ? C'est quoi l'objectif en fait ? On est sauvé pour marcher en nouveauté de vie, parce que la conversion, c'est pas tant une fin qu'un commencement. Et ce commencement-là, il est fait de plein de choses, de la vie de tous les jours, des défis, des hauts, des bas, où Dieu et où Jésus aussi, comme il l'a fait avec Marie, Jésus, il vient nous surprendre, il vient nous interpeller, il vient peut-être nous troubler et nous chambouler. Notre vie de foi, à partir du moment où on dit oui à Christ, bah c'est cette grande aventure qui commence, ce que l'Évangile appelle la vie éternelle, qui commence ici-bas dès maintenant, qui est faite de maturité, d'évolution, de transition. Et je crois que Marie, peut-être plus que tout autre personnage biblique en fait, elle est l'incarnation même de cette foi qui est en chemin, qui n'a pas juste dit oui au début, mais qui a petit à petit progressé, qui a découvert son Fils, qui a découvert Jésus d'une manière totalement nouvelle, dans de nouvelles dynamiques et dans de nouveaux rapports. Que ça puisse nous encourager aussi à ne pas figer Jésus dans une petite crèche, par exemple, mais à le voir comme quelqu'un qui peut toujours nous surprendre dans sa relation avec nous, dans sa relation au monde, et que l'on puisse toujours découvrir plus derrière cela. Finalement, Marie, et je termine avec ça, c'est ma conclusion, a eu cette affirmation, « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Pourquoi elle est bienheureuse ? On pourrait le résumer de la manière suivante, parce qu'en choisissant Marie, Dieu dit son amour sans limite pour toute l'humanité. En portant Jésus dans son sein, en le mettant au monde, en l'éduquant, puis en le suivant, aucun autre être vivant n'a été aussi proche de Jésus. Elle est aussi bienheureuse parce que quand on se met à l'écoute des textes bibliques sur Marie, on découvre qu'en fait, croire au mystère de Jésus, qui s'est fait chair, et qui vient nous sauver et nous rendre notre dignité, c'est croire justement que le salut, il se situe aussi dans l'incarnation, c'est-à-dire dans le fait que Dieu est fait homme. Et enfin, se mettre à l'écoute des textes bibliques qui concernent Marie, c'est aussi choisir ce qu'on appelle la suivance de Christ, c'est-à-dire cheminer avec lui. Après le oui initial, il y a eu la gloire des anges, ça devait être probablement quelque chose d'incroyable pour Marie, mais il y a aussi eu l'incompréhension au temple, comme je l'ai dit. Il y a eu la mort à la croix, où Marie était présente, avec peut-être beaucoup de questions, de la tristesse, très certainement. Mais aussi après, l'espérance de la communauté réunie à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit. Tout ça, Marie, elle l'a vécu. Et pour finir, je vous propose d'écouter un chant qui parle de cette place particulière de Marie et qui questionne sa prise de conscience. Est-ce qu'elle avait vraiment compris ce qui s'est passé lors de ce tout premier jour et ce vers quoi ça allait aboutir ? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. En tout cas, ce chant s'appelle « Marie, savais-tu ?» Et je vous invite à l'écouter.
Marie, savais-tu que
Je vous invite à prier